Vous êtes sur RTL.
Faire.
RTL Matin
avec Yves Calvi.
RTL 7h41, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Brigitte Macron, présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France.
Bonjour Brigitte Macron.
Bonjour Alba Ventura.
Et merci d'être avec nous sur RTL. C'est le début de l'opération Pièce Jaune qui va permettre de financer plusieurs projets à l'hôpital ou à côté de l'hôpital pour les enfants, les ados, leurs familles. La grande différence, Brigitte Macron, cette année, c'est que compte tenu de la crise sanitaire, il n'y a plus de tirelires. Elles sont évaporées.
Bien sûr, cette année, crise sanitaire oblige. C'est une dématérialisation des pièces jaunes. Donc, on passe par le SMS 9211, don, ou alors piècesjaunes.fr, ou alors le QR code, ou alors, bien évidemment, l'échec. C'est une autre aventure qui commence, l'histoire de cette petite pièce qui fait les grandes rivières qui rejoignent les fleuves.
Alors, il n'y aura plus ces petites boîtes jaunes qu'on avait l'habitude de voir chez nos commerçants. Qu'est-ce que je fais de mes petites pièces, de ma ferraille, comme on dit un peu grossièrement?
Alors, vous les conservez précieusement, ou vous pouvez aller chez les boulangers partenaires, ou alors dans Carrefour, où il y a ce qu'on appelle des bornes qui prennent les pièces. Sinon, elles vont revenir. Donc, vous attendez.
Donc, on les garde précieusement.
Voilà.
Et elles seront utilisées. Ces dons, ils vont permettre de mettre en place des maisons des familles, notamment, parce que lorsqu'un enfant est à l'hôpital loin de chez lui, il est important que sa famille lui rende visite. Je sais que vous êtes allé lundi avec Didier Deschamps visiter l'une de ces maisons, c'est près de Rambouillet dans les Yvelines. Qu'est-ce que vous y avez vu, Brigitte Macron?
Pour un enfant qui est hospitalisé, avoir ses parents, c'est essentiel. Essentiel affectivement. Et les médecins me disent, mais ça fait totalement partie du soin, madame. C'est tellement important pour qu'un enfant supporte bien son hospitalisation, il a besoin de sa famille. On va également faire des maisons des adolescents, non pas à l'hôpital, mais adossées à l'hôpital. Vous savez à quel point c'est compliqué d'être adolescent, comment ça l'est peut-être encore plus davantage. Beaucoup de pédopsychiatres nous alertent en disant qu'il faut qu'ils aient un lieu pour parler de leurs problèmes, pour se rencontrer. Donc on voudrait développer encore plus de maisons des adolescents. Et cette année aussi, ce grand projet qui nous tient particulièrement à cœur, on va soutenir des projets d'envergure pour le dépistage de toutes les maltraitances et de toutes les violences. Et ce dépistage va être fait à l'hôpital.
Alors, c'est là où je voulais en venir parce que c'est même un phénomène qui s'est accentué avec la crise. J'ai vu que plusieurs études de chercheurs, notamment du CHU de Dijon, de l'INSERM Paris-Saclay, ont montré que les hospitalisations pour violences physiques des enfants de moins de 5 ans ont connu une hausse de 50% entre mars et avril. Les médecins vous ont dit à l'hôpital, on est dans un moment d'urgence absolue.
Énormément d'enfants passent à l'hôpital. Il faut à un moment donné qu'on puisse les repérer. Beaucoup de spécialistes nous alertent. Parce que quand il y a des conditions de logement qui sont extrêmement difficiles, un enfant turbulent peut générer de la violence chez ceux qui sont autour de lui. Un bébé qui pleure beaucoup, énormément. J'ai été alertée par des hôpitaux pédiatriques en me disant les problèmes des bébés secoués, des tas de violences qui sont inouïes et qu'on ne peut pas subodorer. Donc, il faut bien évidemment aller au secours des enfants. Et il faut peut-être aussi développer, ce sera peut-être un autre temps, des maisons de la parentalité. Parce que être parent, ça s'apprend.
Vous en avez visité déjà des maisons de la parentalité? Ça existe?
Alors, il y en a une à Bordeaux que je vais aller voir au mois de janvier. Parce que actuellement, beaucoup de parents sont aussi très déconcertés. Il ne faut pas systématiquement dire que ce sont de mauvais parents. Il faut voir ce qui se passe, il faut écouter, il faut comprendre. Et être parent, ça s'apprend. Les gens, actuellement, n'ont jamais peut-être eu autant besoin d'être entendus. Moi, c'est ce que je ressens.
En ce moment?
Oui.
Pourquoi?
Je le ressens. Parce qu'ils sont privés de social. Et nous ne sommes pas faits pour être privés de social. Et là, ils le sont. Et c'est extrêmement difficile. Ils ne se rendent peut-être même pas compte eux-mêmes à quel point c'est difficile.
Vous pensez qu'il peut y avoir des conséquences psychologiques fortes?
J'en ai peur, bien sûr.
À cause du confinement, bien sûr.
J'en ai peur. D'ailleurs, tous les établissements de santé mentale que nous avons aidés lors du premier confinement m'ont tous alerté. M'ont dit, madame, on a peur que ça explose. Parce qu'ils ont des demandes accrues, tous âges confondus, toute classe confondue, ça concerne absolument tout le monde. Ce que l'on vit actuellement, c'était quelque chose que nous n'avons même pas pensé, qui est arrivé, qu'on a vu un peu loin en Asie et qui est arrivé en Europe et qui a explosé. C'est quelque chose qu'on n'a pas anticipé. Ma grand-mère me parlait de la grippe espagnole, mais j'avais l'impression que c'était dans une autre vie. Elle me disait, mais elle me racontait que toutes les maisons d'Amiens avaient été touchées, mais on se disait, ça n'arrivera plus. Et ça arrive, et c'est ici, et c'est dans le monde entier.
Vous avez des signaux d'alerte, Brigitte Macron ?
Sur les jeunes.
Sur les jeunes ?
Sur les jeunes. Beaucoup, beaucoup, par exemple, les jeunes étudiants, sur l'urgence pour eux de retourner en cours, d'avoir des contacts avec leurs profs, de retrouver, c'est peut-être l'âge où on a le plus besoin d'être ensemble. Et c'est un âge aussi où votre avenir se structure parfois à partir des choix que vous faites. Or, les choix, parfois ils les font seuls, parfois ils ont besoin d'être accompagnés, parfois ils ont besoin qu'on confronte leurs opinions à celles des adultes. Mais c'est sur la table. C'est sur la table. Et je pense qu'il va y avoir une certaine reprise des cours assez rapidement dans des conditions sanitaires possibles. C'est ce que j'ai entendu.
C'est-à-dire que le président s'en occupe ?
Oui.
Avec les ministres.
Le président est excessivement sensibilisé à cela.
Et qu'est-ce qui est sur la table précisément ?
Le fait que les étudiants sont isolés, sont en manque de moyens. Il y en a beaucoup qui avaient des petits jobs d'étudiants. Mmh. Là, il n'y a plus de petits jobs d'étudiants. Donc, comment font-ils ? Il y a une extrême précarité. Il y en a qui arrêtent leurs études. Il y en a qui retournent chez les parents totalement désabusés. Il y en a qui passent leur temps sur des écrans. Il y en a qui ont pris une orientation et ils reviennent sur cette orientation. C'est extrêmement difficile et ça se dit peut-être pas, mais déboussolant pour eux.
On parlait, Brigitte Macron, de la maltraitance des enfants, des violences. Et parmi ces violences, il y a l'inceste. Vous avez été surprise ce week-end sur les réseaux sociaux de voir ce mouvement hashtag MeTooInceste, tous ces gens qui brisent le secret « j'avais 5 ans, j'avais 8 ans », etc.
Tout ce qui explose est forcément violent et heureusement que ça explose, je vais dire. Parce qu'il faut savoir qu'un enfant, un adolescent qui subit cela va se taire quasiment plus qu'un autre. Parce que quelque chose se met dans sa tête en place qui fait qu'il pense qu'il va être coupable de l'explosion de sa famille.
Oui.
Et donc jamais d'abord il se sent coupable de ça. Il y a chez les victimes un sentiment terrible de culpabilité qui fait qu'ils se taisent.
Comment on brise ce tabou de l'inceste ?
Tout d'abord, le dire. Il faut que ce soit l'école, forcément. Moi, j'ai vu, dans deux pays où je suis allée, au Danemark, par exemple, il y a une mallette pédagogique qui est distribuée aux professeurs. Pour les plus petits, aux primaires, que dire aux enfants à un certain âge. Je l'avais vu également au Canada, sur les sujets violences sexuelles faites aux adolescents ou harcèlement fait aux adolescents. Il y a certains pays qui se sont inspirés de ça. Je pense qu'il faut mettre autour d'une table les professeurs, les pédopsychiatres, les directeurs, les parents d'élèves. Il s'agit pas de traumatiser les enfants, mais il y a bien un moment où il va falloir dire aux enfants qu'est-ce qu'on doit leur dire et comment leur dire, à quel âge. Mais je pense que tous les enfants doivent entendre quel est leur droit et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de leur faire.
Oui, vous avez eu cette discussion avec le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer.
Oui, oui, oui. Oui, oui.
Il va s'en saisir ?
Oui. Et là, bien évidemment, il va s'en saisir. Je suis, vous savez très bien, comme il me l'a demandé avec lui, contre le harcèlement fait à l'école. Et à chaque sortie que nous faisons tous les deux, on est absolument terrifiés. Au sujet du harcèlement, pardon, Alba, je fais une petite parenthèse. Le harcèlement par Internet, c'est terrible. À la fin du congrès de l'UNESCO contre le harcèlement, j'ai lu une lettre d'une adolescente expliquant pourquoi elle voulait mourir. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de mes mots. L'important, c'est ce qu'elle a dit.
Et harcelée par qui ?
Par les élèves de sa classe. Qui ne sont pas des harceleurs fondamentaux, mais qui deviennent harceleurs en meute. Et tout d'un coup, c'est toute la journée, et vous rentrez, ça continue. Et ça s'était intensifié pendant le confinement.
Pour revenir un instant
Adam Mosseri, pardon, le patron d'Instagram, m'a contacté suite à la lettre que j'ai lue. Et il a dit qu'Instagram voulait
lutter.
Se identifier, enlever les contenus. Je ne sais pas ce qu'il en sera, mais c'est lui qui a demandé à me parler en visio.
Pour revenir un instant sur l'inceste, vous avez lu le livre de Camille Kouchner qui accuse son beau-père Olivier Duhamel ?
Alors, j'ai lu des extraits, donc je considère que je ne l'ai pas lu parce qu'il faut lire in extenso. J'ai lu des extraits et je l'ai écouté parce qu'elle est passée à la grande librairie. Donc je l'ai écouté avec beaucoup d'attention et beaucoup de respect. Parce que c'est très difficile de parler. Elle le fait, et je vais m'emparer du livre.
Brigitte Macron, quel genre de présidente êtes-vous? Je parle de présidente de la Fondation.
Vous m'inquiétez, Alba Ventura.
Non, mais vous aviez imaginé ce rôle-là qui est quand même assez bien rempli?
Non, j'imaginais pas du tout. Quand Bernadette Chirac a demandé que je prenne la suite, d'ailleurs, je veux la remercier. Il lui dire à quel point sa fondation est solide. Et je ferai tout pour qu'elle le reste. Quand elle m'a demandé, j'imaginais pas du tout. Je ne pensais pas que je tomberais dans la marmite. Mais bien évidemment, quand on va beaucoup à l'hôpital et qu'on voit ce que font les soignants, qu'on voit les besoins qu'ont les patients, on ne peut que les aider. D'ailleurs, en mars-avril, lors de la première vague, j'ai eu beaucoup de gens qui me donnaient que pour les soignants. Donc là, je suis en train de faire un espace soignant témoin et pour leur aménager des espaces soignants.
On comprend qu'il y a une générosité envers...
Il y a une très grande générosité.
Comment allez-vous après avoir été malade du Covid? Est-ce que vous êtes bien remise?
Bien, je vous remercie beaucoup. On est en post-Covid et j'attends 3 mois pour faire une prise de sang pour me faire vacciner. J'ai pas envie de le revoir.
Oui. Vous êtes restée à l'isolement avec le président?
Oui, à Brégançon.
Vous avez eu peur?
Il y a un moment où on respire moins bien. Mmh. Donc c'est désagréable, c'est-à-dire on n'est pas tranquille.
Et vous étiez un peu angoissée?
Non, parce que on n'avait pas la même forme. En dehors du fait qu'on avait le seul point commun, c'est ni goût ni odorat. Le reste, on avait deux formes un petit peu différentes.
Brigitte Macron, on vit quand même un moment inouï. Oui. Et depuis le début, évidemment, de cette crise, il y a eu des contradictions, il y a eu des lenteurs. Vous comprenez, vous, que les gens râlent?
Bien sûr, parce que c'est difficile. Le quotidien des gens est extrêmement difficile.
Notre côté gaulois réfractaire.
C'est-à-dire que là, je les comprends, parce que ce qu'on vit est tellement... On vit d'un moment inouï, comme vous l'avez dit. On a des informations qui peuvent être paradoxales, parce que tout ce qui arrive est parfois paradoxal. Parfois, on a une certitude. Cette certitude est balayée par une autre, quelque chose qui arrive. Donc... les scientifiques ne sont pas d'accord sur tout, et c'est tout à fait normal, ça a toujours été comme ça. Il y a quand même une chose qui me sidère, c'est la rapidité avec laquelle ils se sont adaptés. La rapidité. Moi, je vois, regardez ce qui s'est passé dans les services de réa en mars-avril, ce qui se passe maintenant. Regardez aussi les médecins qui traitent. Moi, je trouve qu'on a très très vite appris et très très vite progresser. C'est mon côté un petit peu... J'essaie toujours d'être positif parce que c'est totalement inédit aussi. La rapidité avec laquelle il y a eu des vaccins.
Et d'ailleurs, de plus en plus de Français sont favorables aux vaccins.
J'ai l'impression qu'il y a plus de gens favorables aux vaccins que de gens réfractaires. Oui.
Est-ce que depuis que le président était malade, il a changé quelque chose dans son comportement?
Non.
Non.
Il n'a jamais cessé. Il ne s'est pas beaucoup reposé et dès le 31, il était là.
Brigitte Macron, l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, disait dimanche au grand jury RTL qu'il fallait s'attendre à une progression de l'épidémie en mars-avril. Vous imaginez un nouveau confinement?
Clairement, je ne l'espère pas. Mais je pense que plus les gens vont se faire vacciner en mars-avril, on va ressortir un peu. Donc ça risque d'être moins compliqué. Mais que de plus en plus de gens vont l'avoir, ça je le pense. Parce que c'est très contagieux, hein, très contagieux.
Vous aimeriez faire passer un message aux restaurateurs, aux patrons de musées, aux patrons de théâtre, de salles de cinéma, de spectacles qui souffrent particulièrement, j'en oublie certainement beaucoup d'autres, en ce moment?
Leur dire que dès que c'est ouvert, on se précipite. On n'a qu'une hâte, c'est d'y retourner, de les voir. Et je mesure à quel point, pour eux, c'est difficile. Comment les restaurateurs, certains, font à emporter, etc. Ça a été un crève-cœur pour beaucoup de se séparer de leur personnel, même s'il y a du chômage partiel. Les comédiens, ils sont en train de répéter. C'est dur de répéter quand vous ne savez pas quand ici vous allez jouer. Puis c'est quelque chose, on n'imaginait pas qu'on allait se poser le problème. Donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais intégré.
C'est vrai.
C'est banal d'aller prendre un pot, ça peut l'être. Et là, non. Donc comment la complexité est arrivée dans nos vies, là où on ne l'attendait pas du tout.
Cette crise sanitaire, elle a engendré une crise économique, une crise sociale. On avait déjà une crise identitaire terroriste. Toutes ces crises qui reposent sur les épaules de votre époux, comment il vit cela?
Extrêmement concentré. en permanence. Extrêmement aussi à l'affût de tout le monde. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays qui essaient d'aider autant les gens. Mais c'est ce qu'il essaie, financièrement, c'est d'accompagner. Bon, simplement ça. Parce que c'est ce que me dit, c'est ce qu'on me dit tous mes amis qui sont à l'étranger. Mais on sait aussi comment, toujours, les Français ont su rebondir. Ils ont connu des périodes de leur histoire qui sont noires. Et toujours, ils sont repartis. Il y a en nous une énergie, une culture qu'on n'imagine peut-être même pas. Je pense qu'on est beaucoup plus fort qu'on en croit et que ça va se voir dès que ça va repartir. Je pense fondamentalement que ça sera comme ça.
Dans quelques heures, le nouveau président américain Joe Biden entrera à la Maison Blanche avec son épouse Jill. Vous les connaissez tous les deux ?
Non, pas encore. Je sais que les deux présidents se sont parlé, ont envisagé une rencontre avec les épouses. Nous sommes enseignantes toutes les deux.
Et oui, elle est prof d'anglais.
Voilà.
Elle entend poursuivre son activité professionnelle.
Elle est très investie. Donc, d'après tout ce que j'ai lu d'elle, et je pense que dès que ce sera possible, les présidents vont se rencontrer. Je souhaite que tout se passe bien pour les États-Unis, qui sont chers à mon cœur, parce que c'est le pays où je suis allée le plus quand j'étais ado. Donc, j'étais même là quand Armstrong a mis le pas sur la Lune. J'ai vécu ça avec les Américains, et j'ai des souvenirs. Et les souvenirs d'adolescence sont des souvenirs qui restent dans nos cœurs. Bonne chance aux États-Unis.
Merci infiniment, Brigitte Macron, d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ce moment sur RTL.
Merci, Alba Ventura.
Brigitte Macron qui annonce que les pièces jaunes vont désormais donc soutenir la lutte contre les violences faites aux enfants au sein de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, et qui souhaite bonne chance aux États-Unis, vous l'avez entendu, en ce jour bien.
RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Bowie chante Brel, Charles Aznavour s'essaye au disco, Clo-Clo à l'anglais. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.